Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous, le magazine Coup Double que vous pouvez podcaster dès 18h avant même le passage antenne de 22h à minuit. Ça c'est compréhensible, hein,
Madame Lagarde ? Oui, c'est assez clair.
C'est assez clair. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et ce soir, l'actu, c'est le documentaire Mutation ou Apocalypse. Une question qui se pose à l'occasion de la 20e édition du mois du film documentaire, à la veille des étoiles du documentaire organisé par la SCAM au Forum des Images à Paris ce week-end. Deux ans après le lancement de la plateforme Tank, qui est racontée dans la série documentaire de Claire Simon diffusée en ce moment sur la chaîne Planète, et au moment où France 2 dégaine son documentaire événement, la nouvelle série Apocalypse. Bref, le documentaire serait partout, de la médiathèque aux écrans numériques, en passant par le cinéma et la télévision. Est-ce un signe de bonne santé ? Oui, Benoît Lagan.
Oui, et on en parle avec Catherine Alvarez, directrice des documentaires à France Télévisions, donc qui diffuse depuis mardi Apocalypse. Pierre Mathéus, qui depuis l'USAS, mais qui est venu à Paris, participe à la création de Tink, le Netflix du documentaire. Jean-Yves Delépiné, président d'Images en Bibliothèque, qui organise chaque année le mois du film documentaire. Et Véronique Bourlon, directrice de l'action culturelle de la SCAM, co-organisatrice du festival Les Étoiles du documentaire. Donc tout ça, ça tombe bien.
Oui, c'est vrai. C'est raccord. Hein ouais. C'est des bons invités ouais. Pour le sujet. Vous avez bien travaillé. Sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbeault, vous êtes au taquet ?
Toujours, toujours Laurent, surtout avec lui. Il vient de Toronto et il documente, lui, la meilleure pop du moment. Il s'appelle Mormor et il sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter plus de Toulouse-Lautrec ce soir et toute cette semaine. Après le peintre des bordels et des théâtres, l'affichiste de génie. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Mardi, France 2 a lancé sa nouvelle série documentaire événement Apocalypse. Alors après la Seconde Guerre mondiale, ça c'était en 2009, la Grande Guerre en passant par Hitler ou Staline, c'est une nouvelle série en 6 épisodes de 52 minutes consacrée à la guerre froide, des films écrits et réalisés par Isabelle Clarke et Daniel Costel, avec toujours bien sûr la voix de Mathieu Kassovitz. Bande annonce.
De 1945 à 1991, le monde de l'Est, dominé par l'Union soviétique, affronte le monde de l'Ouest avec les États-Unis. Après la fin de la guerre, c'est la tension permanente entre soviétiques et américains. Avec l'escalade folle des essais atomiques et le réveil de la Chine, le monde tremble. C'est la guerre froide, la guerre des mondes.
Apocalypse, Catherine Alvarez, vous qui êtes directrice des documentaires à France Télévisions, c'est vraiment l'une des vitrines de la vitrine documentaire. Ça sonne comme un blockbuster, le prochain est annoncé par 2020. Ça marche toujours autant à cette heure-là ?
Ça marche. Le dernier opus qui était un unitaire, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire c'était une soirée, c'était Apocalypse, la paix impossible pour le 11 novembre dernier, avait très bien marché. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu avec une longue série. Là, c'est quand même 6 fois 52 minutes. Donc, c'est à nouveau un pari parce que depuis, le public a changé. Enfin, c'est plutôt le mode de consommation. Largement, des séries ont changé. Les plateformes sont passées par là. Donc, ça va être c'est un test pour nous quand même de voir comment on tient sur 2 semaines avec 3 épisodes chaque soirée. Et mais Apocalypse reste. Ça fait 10 ans. Hein, c'est une grande aventure de service public quand même. 10 ans de grands films historiques en prime time sur la première chaîne du groupe. Peu maintenant, quasiment plus de grands groupes européens de services publics font de l'histoire en prime time. Nous, on continue, on le revendique. Donc oui,
c'était
quand même
quoi le modèle départ ? C'était la BBC, d'essayer de surfer sur l'exemple de la BBC, grande chaîne publique européenne ?
Alors pas du tout, je pense justement, parce qu'on a été précurseur, en tout cas sur la colorisation des archives largement, puisqu'on s'est été totalement décrié il y a 10 ans. Maintenant, ça y est, BBC le fait. Donc il a fallu 10 ans pour la BBC. Donc c'est pas un modèle, la BBC pour les grands. La BBC a déserté l'histoire. La BBC reste un modèle pour l'histoire naturelle, ça largement, et on continue à collaborer avec eux. En revanche, non, c'était un moyen de revisiter l'histoire, et surtout pour un grand public, c'est tout l'enjeu, et un public familial.
Quelles sont les questions qui se posent justement aujourd'hui par rapport à la diffusion d'une série documentaire sur l'histoire ? Vous disiez, les publics ont changé, le mode de consommation aussi. Qu'est-ce que vous appréhendez, Catherine Lavarès ?
ce qu'on appréhende, c'est aujourd'hui, c'est compliqué d'être suivi d'une semaine sur l'autre. En fait, c'est toute la difficulté, même en documentaire, c'est-à-dire, et surtout en documentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une consommation, le beach-watching qu'on a sur les plateformes, on peut regarder les 6 épisodes tout de suite maintenant, quand on veut, et de faire revenir la notion de rendez-vous la semaine suivante est très compliquée. Il suffit qu'il se passe quelque chose, un immeuble s'effondre à Marseille, tout le monde va regarder ça et on oublie. Donc c'est compliqué, en fait, c'est l'idée du rendez-vous qui est compliquée. Donc ça va être une nouvelle expérience, que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, en fait.
Véronique Bourlon, vous qui défendez les auteurs à la SCAM, ce genre de série au long cours, c'est des choses que demandent les auteurs aujourd'hui, de visibilité sur de longues séries documentaires sur une chaîne comme France 2 ou France 3 Arte?
C'est pas forcément une demande des auteurs, ça doit correspondre au traitement d'un sujet et le format doit s'adapter bien évidemment au sujet qu'on a envie de traiter. Donc oui, à une série pour un tel sujet, et puis après on aura des films unitaires, donc plus courts, mais enfin ça peut durer un peu plus longtemps que 52 minutes. On l'a encore évidemment sur France Télévisions et ailleurs, et puis jusqu'à des films documentaires très forts et très courts.
Catherine Alvarez, l'unité documentaire que vous dirigez se découpe en 4 pôles thématiques. Coproduction internationale, histoire et culture, découverte et sciences, société et géopolitique. Et le documentaire dit de création?
Il est partout. Le documentaire de création, c'est pas un genre, c'est pas une thématique. Donc le documentaire de création, il est partout, fort heureusement. D'ailleurs, ce redécoupage, c'est très intéressant en grande thématique. Ça nous permet justement d'appréhender, on le sait, le documentaire est un genre complètement protéiforme, et c'est tout ça, et de plus en plus. Et donc justement, le documentaire de création, il se retrouve au cœur de chacun des pôles, et de façon, je dirais, extrêmement vivante sur France Télévisions aujourd'hui.
Quels sont les types de documentaires, les sujets qui marchent le mieux actuellement, par exemple, à la télévision?
Alors, l'appétence, il y a quand même de l'appétence pour l'histoire qui nous avait été signifiée vraiment par le public. Ça, c'est, en tous les cas, je trouve que c'est extraordinaire parce que on a pu expérimenter sur l'histoire plus sociale comme histoire d'une nation. Il y avait vraiment de l'appétence, tant qualitative et aussi on a rencontré un vrai public. Donc, pour nous, ça a été quand même formidable parce que c'était quand même sur France 2, la grande chaîne. Il y a de l'appétence aussi pour l'histoire naturelle, ça, on le voit. On a une vraie, et ça a toujours été, et sur la société, très fortement. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, et c'est un grand marqueur pour nous, dans nos films, tant en prime time sur France 5 avec Le Monde en Face, ou Infrarouge avec France 2, où on a de l'appétence du public. Alors c'est un autre public, puisque d'ailleurs sur France 2, Infrarouge, c'est en seconde partie de soirée. Donc on est vraiment sur des films, justement, avec une écriture qui peut se permettre différente d'un prime. Il ne faut pas oublier que France 2 n'est pas une chaîne culturelle, n'est pas une chaîne de documentaire, c'est une chaîne généraliste. Mais de voir à quel point on arrive encore récemment sur un très beau film, Gosse de France, à avoir 800 000 téléspectateurs, on se dit, mais c'est absolument extraordinaire en deuxième partie de soirée.
Pierre-Yves Delépiné, parmi les films qui sont mis en avant durant tout ce mois du documentaire, c'est le mois de novembre, quels sont ceux qui peuvent vraiment interpeller le public, qui va notamment voir les films en bibliothèque, version documentaire?
Alors, déjà une petite précision, le mois du film documentaire, c'est organisé par Images en bibliothèque, mais ça ne se passe pas du tout que dans les médiathèques.
Non, dans les centres culturels.
Dans les centres culturels, dans les cinémas, il y a à peu près près de 500 cinémas qui participent, dans les salles des fêtes, un peu partout, il y a moyen de projeter des images. Alors, quels sont les films? En fait, il va y avoir cette année entre 1700 et 2000 films différents qui vont être montrés. Ce qui est important dans ce projet, c'est, on l'a dit, le documentaire, c'est extrêmement protéiforme, et c'est toujours, presque toujours, en tout cas, un désir de cinéaste, le documentaire. Et là, dans cette manifestation, ce qu'on fait, c'est que c'est des désirs de cinéastes, mais par ailleurs, c'est accompagné par des désirs de programmateurs, au plus près du terrain. Dans des petits villages, comme dans des grandes villes, bien entendu, il y a des projections qui sont portées par des programmateurs qui vont choisir, en fonction de leur public, ce qui va déclencher la parole.
Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent quand même dans les sujets qui sont abordés, par exemple?
Bien sûr, on a évoqué toutes les questions de société. Clairement, les questions de société sont au cœur de ces programmations. C'est aussi ce qui est beaucoup discuté aujourd'hui dans la société, qui précisément remonte par le cinéma documentaire. Donc, en ce moment, bien sûr, les thématiques écologiques. Cette année, on a le succès d'un long métrage de fiction est accompagné par beaucoup de documentaires sur le monde paysan, les forêts, etc. Donc tout ça est très programmé sur le territoire. Mais beaucoup d'autres thèmes, bien entendu, beaucoup d'autres thèmes.
C'est la même chose qu'on vérifie pour les étoiles documentaires, Véronique Bourlon?
Alors, pour cette édition, donc qui démarre samedi dimanche au Forum des Images à Paris, bien évidemment, on a à peu près les mêmes tendances. Je trouve que cette année, c'est un peu plus éclaté. Il y a eu des années où on avait vraiment une tendance extrêmement lourde sur des sujets de société ou des sujets historiques. Là, on part de films extrêmement intimistes avec des portraits, alors soit de personnages connus comme Simone Veil ou Jean-Pierre Mocky ou autres. On passe par des films extrêmement sensibles. Je pense par exemple à L'Esprit des lieux de Serge Teillère et Stéphane Manchematin, où on va avec un preneur de son chasser le son et le silence dans une forêt vosgienne, jusque bien évidemment des documentaires historiques, des portraits de gens, de métiers, un paysan, un fils de paysan qui ne veut plus être paysan par exemple, jusqu'à des documentaires extrêmement forts comme Libye, anatomie d'un crime de Cécile Allégra, où là on se prend un vrai coup de poing dans la figure. Donc il n'y a pas de grande tendance cette année. Moi je trouve ça plus intéressant presque, parce que c'est plus protéiforme. On va d'un film poétique à un film trash, quoi.
Pierre Mathéus, on reviendra tout à l'heure sur l'aventure de Tinc, votre plateforme numérique, votre Netflix du documentaire entre guillemets, hein. Vous nous expliquerez plus en détail ce que c'est tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces tendances que Catherine Alvarez évoquait par exemple, vous les retrouvez aussi dans les choses qu'on peut voir, dans les documentaires qui se font un peu partout dans le monde et que vous pouvez diffuser via Tinc? Est-ce qu'il y a ces tendances qu'on sent françaises, est-ce qu'on les retrouve partout?
Alors, forcément, ces tendances autour de la société, autour de l'environnement, l'écologie, comme disait aussi Jean-Yves, on les retrouve. Ensuite, effectivement, on est quand même, nous, dans les films qu'on va chercher, qu'on va découvrir, beaucoup dans des histoires personnelles, très intimistes. Donc derrière, effectivement, tout ce qui est fait de société, tout ce qui est préoccupation sociétale, on les retrouve. Mais c'est pas toujours le premier niveau qu'on va aller voir dans ces films. Donc effectivement, je retrouverai là ce que dit Véronique. On est quand même sur des sujets assez larges et sur des rencontres d'expériences personnelles plus que des grands thèmes, des grandes thématiques qui ressortent. Même si derrière, en toile de fond, c'est ce qui dessine et c'est la force du documentaire, c'est-à-dire d'arriver à sentir, même si c'est des films qui sont faits 2-3 ans en arrière, enfin c'est des films qui sont longs, et pourtant ils sont d'une actualité incroyable. Et donc ça, c'est la force du documentaire.
Une cinémathèque française du documentaire, une plateforme Tinc, le mois du documentaire en novembre, des chaînes qui investissent beaucoup dans le genre, mobilisation de l'audiovisuel français pour le documentaire. Est-ce que c'est unique dans le monde? Est-ce qu'il y a une exception française par rapport au documentaire, Catherine Lavarès?
Ah, moi je suis convaincue, oui.
Et est-ce qu'il y a une French touch? comme par exemple pour le cinéma d'animation?
Il y a une French touch, absolument. Alors c'est vrai qu'on est une exception française, parce que je le dis, dans l'investissement que l'on a en tant que groupe audiovisuel public aujourd'hui, est unique.
9000 documentaires par an, c'est ça?
Par an, on a aujourd'hui plus de 100 millions d'euros investis dans le documentaire chaque année par France Télévisions. C'est énorme. Et c'est énorme, mais c'est pour moi nécessaire. Et c'est vrai que c'est une exception, puisque, comme je le dis, France 2, beaucoup de groupes audiovisuels, finalement, aujourd'hui, même BBC, les grands groupes, même Scandinaves, mettent le documentaire sur les petites chaînes. Il y a des chaînes spécialistes. Nous, on lutte contre ça. On veut que le documentaire soit partout. C'est pour ça qu'il prend des formes totalement différentes. Donc, on va de 25 nuances de doc, où là, on accueille beaucoup de documentaires, de cinéma, documentaires étrangers jusqu'à Apocalypse. C'est pour moi, c'est ça, c'est avoir cette offre-là. Donc on est quand même dans une offre absolument unique en France. Et ce qui est très réconfortant, c'est qu'il y a de l'appétence, puisque on a les téléspectateurs qui sont là, qui regardent. Et on sait qu'aujourd'hui, la consommation à la télévision est compliquée.
Marie de Lépinay, vous qui observez beaucoup le documentaire, vous êtes d'accord avec le fait qu'on est une exception en France par rapport au documentaire?
Je pense, en effet. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays dans lesquels on puisse voir du documentaire dans un village de 150 habitants, comme c'est le cas dans ce mois de novembre. Par ailleurs, il y a quand même en France beaucoup de films documentaires maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais non, qui sortent en salle.
Depuis combien d'années d'ailleurs ça commence à aller
depuis maintenant peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années.
D'accord.
Ça a commencé à augmenter petit à petit. Hein. Mais aujourd'hui...
On est à plus de 120 ou 130 films documentaires qui sortent en salle par an en France. C'est énorme. Hein.
Oui, oui. C'est énorme, et ça, je pense que c'est unique au monde. Il faudrait aller observer plus précisément, mais je pense que c'est unique au monde. Et surtout que c'est finalement, alors c'est plus difficile dans certaines villes de montrer du documentaire parce qu'il n'y a pas toujours les infrastructures pour, d'où d'ailleurs l'intérêt de manifestations comme le mois du film documentaire, mais aussi d'un dispositif comme la Cinémathèque documentaire qui a été créée donc il y a maintenant presque 2 ans et qui atteint maintenant une sorte de petite vitesse de croisière, d'où aussi cette année la première édition de Best of Doc, qui est donc un festival qui se tient dans le cadre du mois du film documentaire, donc du 20 au 26 novembre. Il va y avoir une trentaine de salles en France qui vont reprendre les films documentaires sortis dans l'année, leur donner une sorte de seconde visibilité, avec un cinéma à Paris, d'ailleurs le Bourgard, qui va reprendre les 16 films qui ont été sélectionnés. Donc voilà, il y a effectivement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays du monde où il y a cet investissement, pas seulement financier bien sûr, ça compte, mais cet investissement de toute la filière qui va depuis justement les producteurs, les auteurs, les producteurs, et jusqu'aux programmateurs et au public.
Mais il suffit de regarder du côté des États-Unis où le documentaire a presque disparu.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière, fifties, I'm fifties, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats, dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie. En arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm fifties, I'm fifties, rue Campagne Première, personne le ramasse. Il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse, au salon de l'auto sous le dôme, touche pas au Grisby du con, dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure. Dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm fifties, I'm fifties. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
Les 50s, chantés et documentés par Alain Souchon.
Rendez-vous.
Moi, je trouvais ça très émouvant, ce film, justement, parce que vous avez osé mettre en image le fantasme de l'exil.
Les films qu'on va montrer sur la plateforme sont une vision du monde. On les voit ici à Lussas, on les voit dans beaucoup de festivals, mais on ne les voit pas autrement. Donc, on va les montrer.
France Inter, le nouveau rendez-vous.
Je travaille avec Pierre sur le développement de Tanguy.
La plateforme, ça va être d'enfer.
Laurent Goumard.
Le documentaire sur tous les écrans, c'est le sujet du NRV ce soir. Et pour en parler, quatre invités. Catherine Alvarez de France Télévisions, Véronique Bourlon de la SCAM, Jean-Yves de l'Épinay du Mois du Documentaire et Pierre Mathéus, directeur général de Tink. Alors Tink a été créé il y a 2 ans. C'est une plateforme qui met à disposition de ses abonnés des dizaines de films classés par thème, les grands classiques, les premières œuvres, les films de festival, les grands entretiens, documentaires historiques, politiques, musicaux, environnementaux, donc tout et n'importe quoi, j'allais dire. Avant de poser la question, ça répondait à quel besoin. Juste, je me suis interrogé sur le nom que vous avez donné. Tink, ça signifie énoncer une pensée de façon claire et précise en Wolof. Pourquoi fallait-il chercher du côté du Wolof pour donner un nom à votre entreprise, Pierre Mathéus?
Ça, c'est une bonne question. Tout simplement, ça vient de l'histoire de Lussas, que Jean-Marie évoque dans la bande annonce.
Jean-Marie Barbe. Lussas, un petit village.
Lussas, petit village de résistants. 1200 habitants, qui depuis 30 ans organise un festival et qui, systématiquement, quand il semblait qu'il y avait des choses à faire, on le faisait. Quand je dis on, c'est effectivement Jean-Marie, sa bande, que j'ai rejoint depuis quelques temps. Et donc, après le festival, il y a eu beaucoup de formations. Des formations avec un master avec l'Université de Grenoble. Et puis, on est allé aussi dans le monde. Et on a commencé par l'Afrique. D'accord. Pour qu'il y ait des images qui soient faites par ces peuples. Parce qu'il y avait très peu d'images qui étaient faites par eux-mêmes. Et un peuple qui produit pas d'images ne se connaît pas. Il faut qu'ils produisent des images d'eux-mêmes. Et on a fait comme on a fait à l'USA, c'est-à-dire des formations de réalisateurs, des formations de producteurs, et puis à la fin des rencontres pour faire en sorte que un réalisateur rencontre un producteur, rencontre un diffuseur, parce que c'est ces trois composantes qui font que le film se fait. Et on a demandé comment on pourrait l'appeler. On va pas appeler ça des rencontres pitch. En plus, pitch, c'est vendre son film en 5 minutes. Nous, c'est on se réunit pendant 3 jours dans une bienveillance pour faire en sorte que ces films vivent et se fassent. Donc là, ils nous ont proposé que Tink, c'est bien.
Ça pouvait marcher. Ouais.
Ça marche et on l'a pris comme nom de code pour notre plateforme. Et justement, quand on est monté à la capitale et qu'on est allé parler avec nos partenaires, ils ont dit mais c'est un super nom.
Ça fait marque.
Donc, on s'est dit on le garde.
Alors, combien d'abonnés aujourd'hui?
Tink, c'est justement, ça fait marque. Tink, c'est effectivement, ça veut dire penser en norvégien. Enfin, c'est vraiment un terme polyphonique. Combien d'abonnés? On est à 15 000 utilisateurs. Et on est à 7000 abonnés individuels.
C'est une réussite pour vous ou...
Alors c'est une réussite parce qu'on est dans les premières plateformes. Là, l'Observatoire du CNC montre qu'on est dans les 15 premières plateformes SVOD, loin derrière Netflix, mais bon, ils commencent à s'inquiéter quand même.
On les sent trembler. Hein.
Mais donc c'est une réussite. Après, c'est une aventure spécialement compliquée. Qu'on a monté sous forme coopérative avec une centaine de professionnels. C'est une aventure qu'on a mise en place depuis 3 ans. Donc c'est il y a 3 ans et Claire Simon qui a filmé notre aventure, c'est depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne de crowdfunding, on a allé chercher nos partenaires pour montrer ces films, mais aussi pour les produire. L'envie, c'était aussi de se dire, bien sûr qu'il y a des télévisions qui ont beaucoup de moyens, qui produisent des films, mais ces petits films qu'on voit à l'USAS, qu'on voit dans les festivals, souvent, ils manquent de télé. Il y a les télévisions locales qui participent beaucoup à la création, qui participent un peu moins maintenant, et donc il fallait créer quelque chose pour participer à la création documentaire. Et voilà, et être une solution parmi tant d'autres qu'il faut créer pour que, justement, ces films et des jeunes auteurs puissent créer leur film.
Catherine Alvarez, comment vous voyez la naissance de ce type de plateforme? Est-ce que, typiquement, Tink aurait pas pu être un développement de France Télévisions numérique, par exemple?
Pourquoi pas? C'est vrai que la difficulté de France Télévisions, c'est que France Télévisions, c'est un groupe. C'est pas simplement déjà, il y a plusieurs chaînes dans France Télévisions et que la difficulté, d'ailleurs, de la plateforme France.tv, c'est que c'est plusieurs marques et puis c'est tous les genres. Donc c'est vrai que, moi je trouve qu'au contraire, qu'il y ait des offres, des plateformes spécifiques, ça permet tout de suite pour celui qui veut accéder de façon beaucoup plus simple. Nous, on a France.tv où on retrouve trouvent nos documentaires, mais de faire, est-ce que c'est vraiment la mission de faire spécifiquement une plateforme pour le documentaire? Déjà qu'on existe de façon, moi c'est, je veux qu'on existe de façon lisible dans l'offre de France.tv, sur le numérique, c'est déjà, je trouve, d'une grande importance. Et puis c'est vrai aussi pour l'exposition des films certains films en effet qui ont très peu d'exposition à la télévision. Je reviens, pour nous ça a été, il y a 2 ans, j'ai créé 25 nuances de doc, c'était vraiment cette idée-là de créer, alors c'est une troisième partie de soirée, mais voilà, mais en tous les cas de permettre d'avoir une exposition aussi télé, linéaire, de façon très classique, de certains films qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est vrai.
Il faut attendre la troisième partie de soirée. De toute façon,
oui,
ça
la troisième...
de toute façon, ça marche aussi sur le numérique.
Ouais, puis la troisième partie de soirée, je trouve
aujourd'hui,
que c'est...
Aujourd'hui, de toute façon, vu la façon dont les gens consomment la télévision,
ouais,
c'est pas non plus...
Et puis la troisième partie de soirée, ça permet aussi, pour moi, c'était un défi, ça permet aussi qu'on soit sous-titré, qu'il n'y ait pas de voice-over, qui était pour moi un combat. L'air de rien, ça me permet ça. D'entendre du polonais sur France 2, c'est quand même assez rare. Ça permet d'accueillir des films, ça permet d'avoir des films très longs. Donc, c'est finalement, notre rôle de service public, c'est quand même de s'adresser à tous les publics. Il y a un public 25 nuances. Donc c'est vrai que c'est tard, mais ça donne une sacrée liberté aussi.
Véronique Bourlon, je lisais ce que disait la directrice de la SCAM dans son éditorial pour les étoiles du documentaire.
La présidente.
Oui, bien sûr.
On a un directeur et une présidente.
Oui, c'est vrai, la présidente. Et je me suis demandé quels sont les films cette année dans la sélection des étoiles du documentaire qui vont changer la donne et bousculer les codes ou les habitudes, selon ce qu'elle a pu dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des documentaires qui vont bousculer les codes du genre.
Je ne sais pas si cette année il y a...
En tout cas, c'est son vœu, manifestement, si on lit son éditorial.
Oui, alors après, ça dépend de ce qu'on appelle code. Moi, je pense y a des films qui font le focus sur des sujets extrêmement sensibles. Pour autant, est-ce que ça va bousculer les codes? Je ne sais pas, mais en tout cas...
Dans la forme, par exemple, est-ce qu'il y a dans la forme des documentaires qui, ont une particularité, une signature
Il y a des films qui intègrent de l'animation, on en parlait tout à l'heure de plus en plus, on va retrouver certains films qui intègrent de l'animation, mais comme depuis déjà quelques années. Est-ce que ça bouscule le code du documentaire? Non, je pense que c'est juste une écriture. De toute façon, un documentaire, c'est quoi? C'est un regard singulier sur un sujet, une situation, un personnage, enfin l'histoire et autres. Donc, qu'à un moment donné, dans l'écriture, il y a un auteur ou une autrice qui ait envie ou qui ait le besoin, qui ressente la nécessité de passer par un bout d'animation, un silence un peu long, un noir coupé pendant quelques secondes. Voilà, je pense que c'est vraiment des écritures singulières qui se trouvent en fonction du sujet à traiter. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait des films qui bousculent les codes. Par contre, ils vont bousculer les esprits. Ça, c'est sûr. Voir Libye, Anatomie d'un crime ou...
C'est quoi Libye, Anatomie d'un crime?
Donc c'est un des derniers films de Cécile Allégra où elle intervient. Donc c'est une enquête, une investigation extrêmement dangereuse où à un moment donné, on voit des hommes qui, comme les femmes, mais en tout cas les hommes, qui sont pris comme armes de guerre de masse par le viol. Donc ça, on n'en parle pas, ou très peu. Donc oui, ça va pas bousculer le code du film documentaire, mais ça peut bousculer effectivement les esprits, ou la manière... Il y a un très beau film sur un enfant qui est en principe qui est accueilli, un orphelin qui est accueilli dans une famille d'accueil, et sa famille d'accueil part à la retraite. Qu'est-ce qui se passe pour ce gamin, quoi? Quelle déchirure, etc. Voilà des thèmes où à un moment donné, on va ressortir, oui, bousculé, parce qu'on aura... vécu de l'intérieur, une situation, on aura compris des choses. Je pense que c'est ça dont Laetitia voulait parler.
Catherine Lavarès, est-ce qu'il y a dans les documentaires de France Télévisions des choses dans l'écriture qui se sont modifiées depuis quelques années? Je crois avoir lu qu'il y avait un documentaire sur Notre-Dame en motion capture qui avait été signé il y a quelques temps, c'est
absolument.
Ça?
Absolument, on a démarré il y a 3 ans.
3 ans.
Temps long du documentaire, c'est exactement ça. C'est que le documentaire, on n'avait pas prévu la catastrophe, hein, mais du coup il est prêt aujourd'hui. Moi c'est vrai
ça
que pour rebondir,
en fait,
la motion capture, c'est, en fait c'était de raconter... Notre défi, on s'était dit, racontons ces 7 siècles, 8 siècles quasi d'histoire pour édifier cette cathédrale. Donc raconter l'histoire de Notre-Dame et comment la raconter à un grand public en prime time pour en faire quelque chose. Parce que moi je pense comme disait Victor Hugo, que la forme n'est là que pour faire remonter le fond. Mmh. C'est le fond qui nous intéresse, c'est pas tellement. Donc comment on raconte, on se creuse la tête avec des auteurs, des réalisateurs, et la motion capture, c'est encore mieux que de l'animation pure, puisque c'est des acteurs qui jouent ensuite tout ça, et donc très réaliste. Donc c'est un film qui est à partir de séquences documentaires mêlées à de la motion capture, et ça nous permet, en termes d'écriture, de mêler de la fiction, puisqu'on a des personnages totalement inventés, à des grands personnages historiques, et finalement, ça nous fait un grand film public familial pour France 2.
Mais Jean-Yves Delépénier, où commence le documentaire, où commence la fiction, où commence le reportage avec ce type de projet? Finalement, c'est juste une production audiovisuelle oui. qui...
Mais ce qui caractérise le documentaire, on l'a déjà dit, hein, c'est que les films documentaires cherchent toujours leur propre forme. Ce qui est vrai aussi parfois dans la fiction, mais pas toujours, parce que dans la fiction, il y a des genres qui formatent, etc. Le documentaire, souvent, cherche sa forme. Et donc, quand il la trouve avec le motion picture, bien sûr, très bien, hein, c'est parfait. En fait, il y a quand même des films qui bousculent les codes. Hein, je veux dire, cette année, je ne sais pas, parce que d'abord, je ne les ai pas tous vus encore.
Vous avez un mois pour les voir. Oui,
mais dans les années précédentes, par exemple, vous pensez à quoi?
Dans l'histoire du documentaire, on sait qu'il y a des films qui ont bousculé les codes. Un film, puisqu'on parlait de Claire Simon, un film comme Les Bureaux de Dieu, est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une fiction? C'est un projet documentaire.
On rappelle le contexte des Bureaux de Dieu.
Bureaux de Dieu, c'est formidable. C'est un film sur donc le planning familial. Mmh. Et dans la genèse du film, Claire Simon, qui a un projet documentaire, se rend compte qu'elle ne peut pas prendre la forme d'un documentaire classique, je dirais, avec des interviews, etc. Simplement parce que il y a quelque chose qui est trop difficile, trop indiscret, trop violent, en fait, à montrer des entretiens de jeunes femmes en difficulté avec les personnes du planning familial. Donc elle prend toute cette matière et elle la fait rejouer par des comédiens. Mmh. Mais c'est bien la matière du documentaire.
Et par des stars du cinéma français. C'était ça qui était très important. Voilà. Pas simplement des comédiens, mais des stars du cinéma français.
Ouais. Donc on a un projet documentaire qui aboutit à une forme. Est-ce qu'elle est hybride? Pas tellement. C'est une forme documentaire particulière qui passe par là. On pourrait en citer d'autres. Un film comme Valse avec Bachir inaugure d'une certaine façon, c'est pas le premier, hein, mais inaugure quelque chose
qui passe par l'animation.
Quelque chose
qui s'est répandu par la suite. Ouais.
Si on remonte dans l'histoire, on va trouver
Jean Rouge et compagnie.
On va trouver Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, qui renouvelle une forme d'utilisation des archives. Voilà. Il y a des films qui bousculent. Quelquefois, on s'en aperçoit pas tout de suite, d'ailleurs. Ça dépend de leur postérité. Il y a peut-être dans les films de cette année des films qui vont atteindre une postérité qui va dire tiens, là il y a quelque chose qui est né. Donc voilà, c'est la particularité. Après, il y a les limites, du coup il n'y en a pas. Hein, c'est ça qui est important.
Pierre Mathéus, est-ce qu'il y a des films comme ça pour vous qui ont marqué l'histoire récente du documentaire?
Il y en a un qui me vient avec ce que raconte Jean-Yves, c'est cet été le film d'Alex Poukim qu'on a pu découvrir, Sans frapper, qui est une histoire de viol racontée par différentes personnes. Donc c'est pour ça que ça m'évoquait un peu ça. Et là, on est sur un genre vraiment terrible. C'est très fin, c'est-à-dire que c'est un sujet hyper complexe. Et elle arrive à brosser comme ça toutes les nuances de ce qu'est le viol et finalement ce qu'est le respect de la personne. Et je trouve que c'est un film qui la sort au cinéma, il me semble, et qui est très fort et justement qui est rejoué, c'est-à-dire que c'est une histoire vraie rejouée par des personnes qui ont aussi vécu le viol, qui ont été témoins ou qui ont été violeurs, et donc c'est d'une finesse et on est sur une histoire du réel et pourtant c'est pas le documentaire justement avec une interview ou une linéarité, donc pour moi ça rejoint aussi quelque chose qui bouscule un peu.
Si on peut citer des choses moins dures, parce qu'on on donne l'impression que le documentaire parle toujours de choses très dures, il y a un film dans le même esprit mais sur un sujet complètement différent, Naissance d'un hôpital de Jean-Louis Comolli, qui est le récit vraiment magique, en fait, de la naissance de l'hôpital Robert Debré dans l'esprit de son architecte Pierre Riboulet, qui est entièrement rejoué, mais qui est effectivement rejoué par Pierre Riboulet et son équipe eux-mêmes, et qui revivent en fait la naissance de cet hôpital.
Oui, c'est le documentaire qui remet la mise en scène au centre même. On va retrouver le documentaire dans tous ses états dans quelques instants, mais tout de suite, portrait d'une jeune femme aussi à l'aise avec sa flûte classique que dans le hip-hop, l'américaine Lizzo, phénomène de l'année, programmation très pipeau ce soir pour Jean-Baptiste Libert.
Took a DNA with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sting in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. You out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hearts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Wild men gray till they gotta be gray. Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hearts needed something more exciting.
Rendez-vous.
Comme la plupart d'entre nous, j'ai toujours été gourmande. Un bec sucré, comme on dit. Confiture, jus de fruits, céréales, bonbons.
Laurent Goumard.
Mon péché mignon, ce sont les petits gâteaux.
25 nuances de doc, le nouveau rendez-vous des excités du genre avec des documentaires qui sortent de l'ordinaire. Le nouveau rendez-vous.
Comment cet équilibre de la terreur va entraîner de multiples conflits localisés et meurtriers. C'est la guerre froide. La guerre des mondes.
Sur France Inter.
Le documentaire entre mutation et apocalypse est le sujet du Énervé ce soir. On en parle autour de la table avec nos invités Catherine Alvarez de France Télévisions, Véronique Bourlon de la SCAM, Jean-Yves de l'Épinay du Mois du documentaire et Pierre Mathéus, directeur général de la plateforme Tank. Catherine Alvarez, on entendait à l'instant trois types d'approches. Un documentaire, c'était dans le générique de France Télévisions. Il y a le documentaire sur le cirque, il y avait Apocalypse en passant par 25 nuances de doc. Est-ce qu'il y a actuellement encore à France Télévisions, est-ce que c'est possible qu'il y ait des sujets interdit des sujets qui ne soient pas faisables?
Non, il y a pas. Déjà, un documentaire, je dis toujours, c'est pas un sujet, c'est un projet. Donc, il n'y a pas de projet interdit. Si on nous apporte un bon projet, il est toujours bienvenu.
Alors, autre question du tac au tac. Infrarouge, la programmation d'Infrarouge passait il y a quelque temps encore sur YouTube. Ça s'est arrêté pour quelle raison?
Ça s'est arrêté pour... aujourd'hui, on travaille sur France.tv, puisqu'on répond, c'est justement ce mode de consommation des plateformes. France.tv, qui jusqu'alors était une plateforme simplement de replay, est destinée à devenir une vraie offre, une vraie plateforme en accès libre, hein, non payante. Donc c'est de restructurer, donc aujourd'hui de plus en plus, on met d'ailleurs nos documentaires en preview, comme on dit, sur la
avant
plateforme.
Même le passage à l'antenne.
Avant même le passage à l'antenne. Donc ce qui est pour nous absolument important, parce qu'on sait
marche,
que ça se consomme.
On sait que ça marche.
C'est pas encore le, je dirais que pour le documentaire, c'est pas ce qui est encore de plus fort, mais moi j'y crois beaucoup. Et c'est tout simplement aussi parce que sans en devenir nous une marque, France Télévisions, comme on disait en préambule, on produit énormément de documentaires, on accompagne ces documentaires. Et pour nous, c'est important à un moment que le public, que les SVODistes sachent nous retrouver.
Les SVODistes. Donc c'est les personnes qui regardent.
Voilà. Je sais pas comment les définir. Je les ai, voilà. Les SVODistes qui regardent les plateformes, puissent se dire, tiens, je vais sur France.tv et je vais retrouver les infrarouges, les 25 nuances. Et alors que sur YouTube, ils se disaient, tiens, je vais sur YouTube, ce qui était une autre démarche, en tous les cas, qualitative.
Pourtant, que vous avez des démarches similaires, de proposer des choses qui pourraient attirer vers la plateforme, qui permet des documentaires à un accès libre, gratuit, qui permettraient de donner une idée de ce que vous pouvez défendre et proposer, ou non, c'est pas à l'ordre du jour?
Pierre Mathéus.
Si, on y réfléchit forcément.
Oui, il faut attaquer le client.
Par exemple, pendant le mois du documentaire, parce qu'on est partenaire effectivement du mois du documentaire, de la SCAM qui nous soutient aussi des étoiles, pendant le mois du documentaire, on offre une semaine gratuite sur notre site pour pouvoir découvrir ce genre. Mais on s'est rendu compte que sur les 15 000 personnes qui sont notre public, 20% étaient des publics qui connaissaient pas le documentaire, qui disaient bah, j'ai découvert le documentaire grâce à Tinc. Et donc ça nous a interrogé aussi de se dire comment on fait pour les faire naviguer là-dedans, parce que le documentaire c'est tellement vaste et ça peut être, avoir un côté très intello, très culture cultivée, et donc de leur montrer que en fait, comme on disait, le documentaire ce sont des films. C'est juste des films et c'est rencontrer l'autre, c'est les films de l'altérité. Et donc on a créé un parcours découverte pour aller sur des films comme ça et découvrir que le documentaire c'est super. Et quand j'aime pas un documentaire, c'est juste que j'aime pas ce documentaire.
Ce documentaire-là,
et c'est toute la difficulté qu'on essaie de faire. Et cette plateforme, elle est aussi faite pour ça, pour faire découvrir un grand nombre ce qu'est ce type de documentaire.
Et le fait d'avoir été suivi par Claire Simon pendant plusieurs années, sous forme diffusée ensuite sous une forme de série documentaire de 20 épisodes, diffusée par ailleurs aussi sur une chaîne qui diffuse du documentaire comme Planète, est-ce que ça a apporté au final une ouverture vers Tinc des personnes qui vous ont découvert comme ça?
Alors c'est pas Planète, hein, c'est Ciné Plus et Télé 5 Monde. Qui ont coproduit.
Mais il est payé par Planète. Vous avez tous quoi?
Ciné Plus, c'est presque le même groupe.
Mais c'est le même groupe. Est-ce que ça nous a pas fait découvrir énormément, j'ai l'impression. Par contre, ça, certainement, cette série, ça attache au projet. C'est-à-dire que ça fait comprendre que Tinc, d'où ça vient pas de nulle part. C'est un projet, effectivement, collectif. Et derrière, il y a une utopie. L'utopie, c'est effectivement de pouvoir aussi participer à la création. Et de défendre ces films qui sont très peu vus. Donc voilà, mais de nous faire connaître plus, forcément, ça doit nous faire connaître un peu, mais c'est pas ça qui nous fait beaucoup connaître. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre des beaux films et des films que les gens vont aimer.
Pierre-Yves Delépiné, quand vous avez lancé l'association Images en bibliothèque, c'était en 89, puis le mois du film documentaire il y a 20 ans, vous êtes vraiment un activiste. Quel était justement l'état du documentaire à la télévision et au cinéma pour créer ce relais sur le territoire à l'époque?
À l'époque, il y avait plus que maintenant encore un vrai souci de diffusion du documentaire. Et l'association, elle a été créée, là pour le coup, pour que le documentaire soit présent dans les médiathèques. Parce que, rapidement d'ailleurs, les médiathèques se sont trouvées devoir être le premier réseau de diffusion du cinéma documentaire sur le territoire, une fois passée la diffusion à la télévision.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait à l'époque très peu d'éditions DVD, il y avait très peu de films en salle. En fait, hein, ça a grimpé petit à petit, mais il y a 20 ans, c'était encore embryonnaire. Et du coup, les films, ils passaient à la télévision puis, quand ils étaient produits par la télévision, et ils n'avaient plus aucune existence. Donc, les bibliothèques se sont saisies, en fait, de cette compétence qui était de faire exister le film documentaire sur la durée. Ce qui était évidemment indispensable, d'autant plus que c'est des films qui mettent eux-mêmes pas mal de temps à se faire, donc il y avait quelque chose d'aberrant à ce que d'un cinéaste qui passe 3 ans de sa vie à travailler sur un film et 3 diffusions sur une chaîne et après au revoir. C'est encore le cas pour certains films, hein. Donc c'est pas tout n'est pas résolu, hein, encore. Mais
même si on peut les voir en replay et que de plus en plus les chaînes créent leur propre plateforme.
Voilà. Mais par exemple, les films à base d'archives, ça reste un souci parce que
pour des questions de droit.
Ouais. Voilà, ça reste un souci hein, qui va falloir régler d'une façon ou d'une autre.
Aux États-Unis, par exemple.
Voilà.
Aux États-Unis, en revanche, par exemple, il n'y a pas ce problème puisque pratiquement toutes les archives sont dans le domaine public. Donc c'est totalement différent.
Et si faire un film avec des images d'archives, c'est la chose la plus chère.
Extrêmement cher.
Vous travaillez là-dessus à la SCAM, j'imagine, bien évidemment, sur les questions de droit, pour que des films documentaires, notamment à base d'archives, puissent circuler beaucoup plus facilement. Ça fait partie des dossiers sur lesquels vous travaillez?
Bien évidemment. Donc moi, je rappelle juste la SCAM, parce qu'on n'en a peut-être pas effectivement parlé.
Société de droit d'auteur.
Société de droit d'auteur, donc vraiment sur le documentaire, enfin le champ documentaire audiovisuel, mais aussi radiophonique.
Bah oui, c'est-à-dire plus je parle, par exemple, là, je suis en train de parler, plus je parle, plus je suis payé. Tu devrais faire des questions de 3 minutes avec 2 secondes de réponse entre création. L'invité dirait oui, non, je serais milliardaire, ce serait génial.
Donc le champ documentaire audiovisuel, radiophonique, ce sont les journalistes, des écrivains, des photographes, des dessinateurs de presse, des réalisateurs et réalisatrices qui font de l'AVR, du 360, etc. Voilà, le champ documentaire dans sa globalité. Hein. Et donc la SCAM, comme toute société d'auteurs, est là pour aller chercher un peu de sous auprès des diffuseurs, dont France Télévisions. Et ensuite, elle est là pour redistribuer les droits d'auteur de manière individuelle à chacun des auteurs et autrices membres de la SCAM, qui compte aujourd'hui à peu près 45 000 membres.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc c'est la dernière née, la plus petite des sociétés d'auteurs, mais effectivement qui voilà qui fait un énorme travail. Et évidemment la question des archives, c'est extrêmement extrêmement important pour la SCAM, qu'on défend bien évidemment quand on voit d'extraordinaires films qu'on voudrait montrer, on ne peut plus les montrer. C'est fini, les droits sont bloqués. Donc voilà, il y a tout un travail. On en reparlait aussi dernièrement avec Jean-Yves de l'Épinay sur tout ça. Tout ce travail formidable à partir d'archives qu'on ne peut plus montrer parce que voilà
les. Et quelles sont les solutions alors aujourd'hui?
On les cherche, on les cherche.
Ah, il y en a pas.
On les cherche.
Si si, il y en a sûrement, mais on les cherche.
À partir de combien de temps elles tombent dans le domaine public?
Oula.
Ah oui, d'accord.
Oui.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas comme les musiques.
Non, ça tombe
dans le domaine public. Ça ne tombe jamais dans le domaine public, quasi. Donc c'est détenu. Alors c'est restauré, c'est détenu. Donc c'est vrai que pour les producteurs, c'est un vrai. Quand nous, on par exemple, Apocalypse, qui est une série qui se vend extrêmement bien dans le monde entier. Aujourd'hui, ça permet aux producteurs de se dire je vais acheter les archives au-delà des droits de France Télévisions. C'est déjà énorme parce que sinon, beaucoup de producteurs ne peuvent acheter les archives que pendant notre période de droit, puisque après, ça devient trop cher.
C'est trop cher.
Donc là, Apocalypse, par exemple, ils peuvent enfin acheter pour 10 ans de droit sur des multiples territoires. Et après, tout s'achète par territoire. Et ça tombe un peu quasi jamais dans le domaine public. Donc c'est un vrai, vrai problème. C'est
ça par année, par
territoire.
Et par territoire.
Donc c'est fou.
Donc c'est un casse-tête.
C'est la double peine.
Oui, c'est double peine.
Après, il faut quand même dire que ça coûte très cher à entretenir, à documenter, etc. Les responsables de fonds d'archives ne se font pas des millions.
Non, c'est pas des milliardaires.
C'est pas des milliardaires.
Et de notre côté, j'imagine que ce sont les documentaires, notamment historiques, qui se vendent le mieux à l'étranger, parce que souvent, à partir d'images, une voix off qu'on peut changer, qu'on peut traduire, il n'y a pas besoin de traduire, de doubler. Ouais. C'est ce qui marche le plus, j'imagine.
C'est absolument ce qui vend le mieux dans les documentaires. C'est absolument, c'est l'histoire. L'histoire naturelle aussi, parce que là aussi, c'est encore plus simple.
On n'a pas besoin de
doubler
les
archives.
Mais
attention, il faut, l'histoire en même temps, comme on disait en préambule, le documentaire c'est un point de vue, et les points de vue sur l'histoire ne se partagent pas dans le monde, forcément. Donc ça c'est quand même, il faut quand même le noter. Apocalypse c'est une des rares exceptions, ils ont même réussi à le vendre à National Geographic, donc chaîne américaine, US, donc c'était quand même en tout cas c'était la partie sur la seconde guerre mondiale où je dirais il y a pas la guerre froide déjà c'est plus compliqué la vision
oui,
de la guerre
qu'ils ont pas le même point de vue.
Que la vision. Donc ce que je veux dire c'est que l'histoire c'est pas simple nécessairement du tout quand même.
Pierre-Yves de l'Épinay.
Donc je voudrais peut-être juste rappeler que puisque nous sommes plusieurs dans cette assemblée, même tous à être associés à la Cinémathèque documentaire, je voudrais rappeler un peu la SCAM est partenaire, Tenk est membre de la Cinémathèque documentaire, France Télévisions est membre de l'Image en Bibliothèque, mais aussi le soutien du CNC bien entendu. Exactement. Parce que toutes ces structures sont aussi soutenues par la SCAM. Par le CNC, c'est très important à rappeler.
Il y avait eu des doutes au départ sur la création de cette cinémathèque documentaire, doutes que ça isole le documentaire du reste, notamment du cinéma et de la production. Aujourd'hui, avec le recul, ces craintes sont totalement évanouies.
Il n'y avait pas ces craintes-là au départ, je pense.
Il y a certaines personnes comme Raymond Depardon qui s'étaient exprimées un petit peu pour dire que...
Oui, enfin, franchement, c'était... très isolé globalement à partir du moment où le ministère de la Culture a donné une mission exploratoire sur la création de cette cinémathèque du documentaire et que il s'est engagé en disant mais oui c'est une bonne idée dans le sens où la cinémathèque du documentaire rappelons-le n'est pas un bâtiment
non.
C'est pas un lieu c'est un réseau puisque l'idée c'était de fédérer l'ensemble des acteurs qui diffusent du documentaire sur le territoire pour que on soit plus plus fort tous ensemble donc c'était un projet qui ne coûtait pas très cher et qui permettait de multiplier la diffusion du documentaire. Donc les craintes, on était tous là autour de la table au moment de la création de la cinémathèque du documentaire. Les craintes étaient très isolées, sincèrement.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Sincèrement, ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous. Je vous propose de retrouver notre Jean Rouge de la musique à nous. C'est Marion Guilbeault.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault.
Vous n'aviez aucune femme à citer en tant que réalisatrice.
J'allais dire Claire Simon. J'aurais pu dire Marceline Lory dans Hiver.
Voilà, c'est mieux.
Eh ben, moi, pas Jean Rouge.
J'aime beaucoup Jean Rouge, mais je préférais tout comparer.
Claire Simon, d'accord. Ouais. Vous êtes très genré, en fait.
Ouais, assez. C'est ça. Voilà. Alors lui, je ne sais pas s'il est genré, il s'appelle Mormor. Mormor, c'est le pseudo de Seth Nyquist. Alors Seth Nyquist, Mormor, il est chanteur, il est compositeur, il est producteur, il vient de Toronto. Toronto, c'est la ville de Drake, de The Weeknd. Et se faire une place dans cette scène musicale de premier plan, c'est un enjeu de taille pour Mormor, qui tient à trouver sa juste et propre résonance. Il a pris le parti d'y aller tout doucement, de distiller chanson après chanson. Il n'y a toujours pas d'album, un petit EP par-ci, un deuxième par-là. Et comme s'il voulait nous habituer petit à petit à son falsetto, c'est au délicat, à ses compos éthérées mais puissantes. Ça, c'était en 2018, ça s'appelle Pass the Hours. C'était un extrait d'un des premiers EP de Mormor. Dans son ADN musical, on retrouve son héritage caribéen, c'est sa famille, les Beatles, comme le Wu-Tang Clan. Et c'est d'ailleurs une des forces de sa musique d'être aussi mouvante, aussi cosmopolite. Mormor est un introverti, deux pour lui, c'est déjà une foule. Il travaille donc seul, chez lui, en autodidacte, à composer de façon quasi obsessionnel, des chansons dans lesquelles il creuse ses failles, comme des confessions qui lui permettent d'affronter tous ses démons. Mormor, it's up to you. Let me place your love higher, lost in all the ways that you got it. Waiting on the dawn, keep the fire. Hiding from the days we were caught in. Tracing all the stars that we counted. Hoping that this all leads to something. Losing my way had me wondering. Color seems to fade every time I wanna say. You le falsetto de Mormors, Won't Let You, c'est son nouveau single. Il y a deux EP magnifiques qui sont déjà disponibles. Il sera en concert ce soir à Bruxelles. Mormors était accompagné par Tyler à la batterie, par Adrian au clavier. La prise de son assurée ce soir par Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Merci beaucoup d'être passé par le nouveau rendez-vous. Thank you so much.
Thank you.
Et merci à nos invités. Merci Pierre Mathéus. Merci Catherine Alvarez. Je rappelle que la série Apocalypse, La Guerre des Mondes, ça continue mardi prochain sur France 2. Jean-Yves Delépiné, que le mois du film documentaire soit avec vous. Et enfin, Véronique Bourlon, rendez-vous au festival Les Étoiles du documentaire. Ça commence ce week-end au Forum des Images à Paris. Ça, c'était le NRV. Première partie, on se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite pour plus de France Inter. Lundi, on se retrouve avec ça.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Des renseignements.
Vous n'en aurez pas.
De gré ou de force, vous parlerez.
J'adore ce rire. On saura les faire parler, les espions. Lundi, ils vont tout nous raconter. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des documentaires. Pas du tout, des commentaires.
Surtout
des
si vous êtes espion.
Sur notre répondeur, ne donnez pas votre nom, c'est tout. 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live, Marion, on retrouvera qui ?
Lundi ?
Oui.
Le 11 novembre ?
Oui.
Bollywood.
Ah,
on
super.
Part en Inde avec Air India.
De la pop indienne ?
C'est ça.
Très bien. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.